À la suite des résultats obtenus aux élections européennes du 9 juin, qui a largement mis en tête le Rassemblement national, le président de la République, Emmanuel Macron, a dissous l'Assemblée nationale. Cette décision implique la mise à l'arrêt des travaux parlementaires et donc la fin des mandats des députés en place. Les dimanches 30 juin et 7 juillet, la population est appelée aux urnes pour les élections législatives qui vont désigner la nouvelle Assemblée. 7 candidats se présentent sur la 3e circonscription, qui compte 85 communes et 9 cantons, La Flèche, Pont-Vallin, Le Lude, Mayet, Écommoy, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, Le Grand-Lucé et Saint-Calais. Les 7 candidats ont accepté l'invitation de Contact FM. Ils auront tous le même temps pour s'exprimer, se présenter et développer leur programme. Je reçois Éric Martineau, député sortant de la majorité présidentielle, candidat pour Ensemble pour la République et investi par le MoDem, en présence de son suppléant Pascal Dupuis. Messieurs, bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors chacun, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter, âge, profession, ville de résidence, mandat en cours ou obtenu et vos engagements qui sont peut-être autres?
Je me présente, je suis Pascal Dupuis, j'ai 62 ans, je suis retraité, maire du Grand Lucé et premier vice-président à la Comcom Loire-Lucé-Bercé, j'ai en charge la voirie.
Éric Martineau, donc j'ai 56 ans, je suis agriculteur pomiculteur en bio et éco-responsable à Chenu, dont j'étais le maire jusqu'aux élections législatives, puisqu'on ne peut pas cumuler mandat de maire et député, et puis je suis contre, de toute façon, le cumul des mandats, donc j'en profite, et j'étais rentré à la municipalité de Chenu en 2001, aussi à la communauté de communes Sud-Sarthe, et puis voilà.
Alors, vous vous présentez sur cette 3e circonscription avec le même suppléant pour évidemment poursuivre votre travail débuté en 2022, loin
oui.
d'être achevé évidemment dans tous les projets
ça sera jamais
et vos
achevé.
Missions.
Ça sera jamais achevé, de toute façon. La machine parlementaire roule et avance toujours, sauf que là, elle est arrêtée donc depuis la dissolution de l'Assemblée.
Un rapide bilan des 2 années écoulées, qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Oula, rapide. Alors, 2 ans, ça peut paraître très court et pourtant, ça peut être aussi très, je vais pas dire très long, mais on a fait beaucoup de choses en 2 ans puisque dans les missions d'un député, vous avez aussi bien la partie, le volet parlementaire législatif à Paris, donc de voter les lois, mais vous avez aussi le volet circonscription sur le territoire où on va soutenir des projets locaux, on va défendre des positions, lutter contre des fermetures de classes, installation de médecins, les hôpitaux, tout ce qu'on a fait en 2 ans, ça peut, la liste est quand même assez importante, si vous me demandez. Et j'ai dit que je le ferai sur mes réseaux sociaux parce que je suis en train de le faire. Je vais compter le nombre de dossiers que j'ai traités en 2 ans. Parce que j'imagine que les gens ne se rendent même pas compte de ce que l'on fait réellement. Bien souvent, on nous le dit, vous faites des fêtes, des inaugurations, des choses, des ouvertures. Oui, c'est vrai, on en fait. Et le vrai motif, l'intérêt de ces manifestations, c'est bien de pouvoir rencontrer les gens. Et à chaque fête, partout, je me suis toujours déplacé, j'ai donné des cartes et les gens venaient après à la permanence pour qu'on arrive à dénouer leur dossier. Et je sais qu'on en a dénoué plus d'un. J'en profite pour remercier justement mes collaborateurs et collaboratrices qui, eux, ont été virés sur le champ lors de la dissolution, mais qui ont beaucoup travaillé quand même pour la circonscription. Donc, je les remercie. Que ce soit, donc, je peux les citer quand même, Clara, Mathilde, Philippe et Pascal qui ont vraiment été actifs du lundi au dimanche soir. Je vous remercie.
Pascal n'a pas vraiment été viré parce qu'il est à vos côtés pour cette nouvelle campagne, on peut dire. C'était logique, Pascal, de
repartir. Il était collaborateur.
On va dire pas officiel, sur le terrain bénévole.
Non, il était collaborateur officiel.
Ouais, collaborateur, quelques heures.
Oui, oui.
7 heures par mois.
D'accord, c'est pour ça qu'à chaque fois, il est cité.
Tout à fait.
Voilà,
tout
c'est pour ça que je suis cité à chaque fois quand on s'est lancé.
Et il a bossé, donc faut reconnaître
le travail.
Il a bossé,
je le reconnais, mais
tout
je ne savais pas qu'il était...
Si,
quand on s'est lancé il y a 2 ans, Éric m'avait demandé d'être présent jusqu'au bout et de le remplacer sur le territoire lorsqu'il siégeait à l'Assemblée. Ce que j'ai fait, je me suis attaché. Il tient absolument à être partout là où il est invité. Quand je ne pouvais pas y aller, il envoyait un de ses collaborateurs ou collaboratrices pour marquer sa présence.
Et donc vous, en tant que suppléant, c'est logique que vous repartiez avec lui.
Oui.
La question ne s'est même pas posée.
Oui, j'imagine bien.
Ouais. Moi, la question ne s'est même pas posée. Je ne t'ai même pas demandé.
Non.
Parce qu'on peut voir des députés sortants qui n'ont pas le même suppléant.
Tout à fait.
sur le territoire.
Mais
de la
tout
Sarthe.
Dépend du rôle qu'on veut donner à son suppléant. Moi, je parlais toujours de Pascal comme mon binôme, puisque la 16e législature était quand même compliquée, ça je ne vous l'apprends pas. Et donc, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en hémicycle, le déroulé se passe du lundi 16h au jeudi minuit. Ce qui veut dire que toutes les inaugurations, les invitations que j'avais du lundi soir au jeudi soir inclus, c'était très compliqué pour moi d'être présent sur le territoire. L'autre solution, l'alternative, c'est ce qu'on avait trouvé comme moyen et ça marchait très bien, c'est que bah, Pascal me remplaçait. Et j'avais toujours un compte-rendu, un débrief, et on a toujours traité les dossiers, que je sois à Paris ou en Sarthe. Et puis alors après, en Sarthe, j'étais là du vendredi matin jusqu'au lundi en début d'après-midi.
Alors, vous l'avez dit, vous êtes très présent hein, sur les réseaux.
Pas que sur les réseaux, sur le terrain.
Non, mais je vais parler réseaux, là.
Okay.
Très présent sur les réseaux, vous ne cachez rien à vos électeurs et à la population
tout à fait.
En général.
Tout à fait.
D'ailleurs, la population vous interpelle par rapport à vos publications. Vous laissez tout aussi, que ce soit positif ou négatif.
Tout à fait.
Alors, on peut lire à plusieurs reprises, il n'y a pas que l'agriculture qui compte.
Oui.
À part les agriculteurs, vous aidez qui d'autre? Vous répondez quoi à ceux qui vous reprochent de défendre que les agriculteurs l'étant vous-même?
Alors, je ne défends pas que les agriculteurs, ça c'est complètement faux. Et déjà, vous pouvez regarder mon activité parlementaire, puisque j'ai porté un texte, j'étais porte-parole par exemple sur un texte sur les logements, sur les anti-squats, enfin les squatteurs, le respect de du droit à la propriété privée. Il y a beaucoup de propriétaires fonciers qui sont venus me remercier à la permanence. Donc, après les critiques, de toute façon, sur les réseaux, moi j'ai voulu laisser ma page libre, je n'ai pas une page de député, j'ai qu'une seule page, c'est-à-dire ma page que j'ai depuis plus de 10 ans, donc il n'y a rien de fabriqué, vous pouvez remonter le roll-up jusqu'au bout, vous allez me voir à la plage ou je ne sais pas où, peu importe. Je m'en fiche parce que j'ai toujours considéré qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans la politique et qu'il fallait faire de la politique autrement si on veut raccrocher les gens à la politique. Parce que la politique, c'est de vivre ensemble. Si on fait ça, c'est parce qu'on aime les gens. Moi, j'ai toujours été transparent, j'ai jamais rien caché. Alors oui, les derniers sujets, bah forcément, l'agriculture, je suis moi-même agriculteur, je suis à la commission des affaires économiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de janvier-février, il y a eu de grosses manifestations des agriculteurs et qu'en plus, en hémicycle, j'étais porte-parole sur le texte sur la loi d'orientation agricole pour le groupe démocrate Modem. Et cette loi, bah bizarrement, depuis 6 mois, on ne parlait que d'agriculture à l'Assemblée nationale, enfin essentiellement d'agriculture. Donc forcément, sur les réseaux sociaux, depuis le mois de janvier, lorsqu'il y avait des interventions, bah oui, il y avait de l'agriculture. Mais si vous remontez plus loin, vous allez trouver des choses sur le logement, sur l'antisémitisme, sur les discriminations, le vivre ensemble. Pour vous dire, là actuellement, si on n'avait pas été dissous, la semaine dernière, je portais un texte, c'était prévu comme ça, sur les zones blanches, sur la téléphonie. Parce que ça fait partie des sujets de la commission des affaires économiques. Donc, on sait très bien que du côté, de la Charte, Saint-Germain-d'Arcé, Mont-Séant-Blain, enfin, il y a plein d'endroits, de territoires où quand je roule, mais pas que moi, il n'y a pas de téléphone, hein, quand on est à court de manche. Il y a plein d'endroits sur les territoires. Et donc, ça, c'était le texte que j'étais en train de défendre. Et là, vous voyez, j'étais en train de travailler aussi sur un texte pour lutter contre le harcèlement scolaire et les discriminations suite à la rencontre que j'ai faite avec la maman du petit Lucas qui s'est suicidée l'an dernier parce que le petit jeune était homosexuel dans un collège. Il a mis fin à ses jours. J'ai rencontré sa maman et on était en train d'écrire un texte de loi avec Aurore Berger, donc la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes et contre les discriminations. Et pour vous dire que lorsque je dis qu'on travaille dans le dépassement, c'est que je travaille aussi avec 2 députés et les filles, Andy Kerbra et Ségolène Amiot, qui sont de la Loire-Atlantique, mais sur des sujets qui nous tiennent à cœur, enfin voilà, sur le vivre ensemble, voilà, je n'ai pas fait que de l'agriculture, ça c'est faux.
Il y a aussi des dossiers qu'Éric a traités pour sauver des entreprises locales, des dossiers sur des particuliers. Il a, on peut le dire, hein, grâce à lui, 2 médecins vont arriver sur le territoire.
2 à Maillet, 1 à Évry-le-Polin. Oui, c'est vrai.
Sur le territoire sud-Sarthe. Voilà,
oui. Donc il ne traite pas que l'agriculture. Hein. Je vais vous le dire, hein, il est partout pour moi. Il traite tous les dossiers.
Quelle est votre réaction suite aux résultats des européennes le dimanche 9 juin en soirée? Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
C'était attendu. Il y avait une montée quand même de l'extrême droite, hein, faut être honnête. Il faut écouter et respecter de toute façon les électeurs. Hein. Il ne s'agit pas de blâmer, de mettre à l'index les gens qui votent Front National ou peu importe, ou Rassemblement National. Mais pour moi, bon, il faut écouter, il faut entendre. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous me demandez, pour moi, ça a été une surprise à 80%, mais pas une surprise complète. puisque il y a deux semaines avant la dissolution, vous avez eu un drapeau palestinien qui est apparu dans l'hémicycle, qui a choqué les députés, parce que je suis désolé, mais quand on est français, on est député de la nation française, dans l'Assemblée nationale, il n'existe que deux drapeaux, le bleu, blanc, rouge pour la France et le drapeau bleu avec les étoiles pour l'Europe. Aucun autre drapeau ne doit rentrer dans l'hémicycle. Donc, il y a eu une exclusion, ça posait un vrai chahut. Et on a eu la semaine d'après, quand ça a été recommencé. Alors là, même nous, le groupe Modem, qui pourtant sommes plutôt des députés très modérés, on va dire très sages, où c'est pas nous qui faisons le buzz dans l'hémicycle, même nous, on est sortis en disant « mais là, c'est plus possible, ça pourra pas tenir 3 ans, enfin, il faut que ça pète, quoi, voilà ». Donc, vous savez, quand je suis monté dans la voiture, j'ai entendu « dissolution », bah, à la limite, il y a un moment. Et puis, vous voyez, s'il ne s'était rien passé, alors, je défends pas le président, parce que forcément, on était en colère après lui, parce qu'on a quand même fait le boulot avant. On a bossé, on n'a pas été mis au courant et on est viré sur le champ. Donc si vous me demandez, je n'ai pas envoyé de message ou quoi que ce soit, on peut ressentir de la colère et ce qui est normal. Et je ne me suis pas gêné de le faire savoir, si vous me demandez, à l'Élysée, avant-hier, enfin, quand on était ensemble. Et je pense que c'est normal. De toute façon, nous au Modem, on a toujours eu la parole libre et indépendante. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Donc ça a toujours été mon leitmotiv. Donc, mais si c'était rien passé, les gens, la population auraient dit aussi... Bah attendez, il y a un séisme là, le RN il monte et il se passe rien. Si ça avait été De Gaulle au pouvoir, je suis sûr qu'il aurait appuyé sur le bouton pour dissoudre l'Assemblée.
Mais la voilà. Dissoudre à ce moment, est-ce que c'était judicieux? Il y a les JO, on pouvait attendre l'été.
Et
là, vous
attendre...
avez trois semaines pour vous retourner.
Oui.
Les gens vont aller aux urnes un 7 juillet?
Bah, j'espère, parce qu'il faut savoir après qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est de partir en vacances ou est-ce que c'est de... vivre en République et de sauver justement notre nation, notre démocratie, si vous me demandez. Après, il existe des systèmes de...
Procurations.
Des procurations, pardon. Voilà, et on voit bien que là, justement, il y a plus d'un million déjà de procurations à ce jour qui sont signées. On nous contacte très régulièrement pour dire comment on fait, Eric, pour voter par procuration, parce qu'il y a plein de gens, oui, qui vont être en vacances. Mais donc, c'est possible de voter, y compris le 30 juin, 7 juillet. Là où c'est plus difficile, c'est vrai, c'est pour les collectivités qui avaient loué des salles des fêtes, qui avaient fait des choses, oui. Mais si on n'avait rien fait, qu'est-ce qui serait passé? Je suis sûr que les médias auraient été les premiers à critiquer le système en disant, écoutez, il y a eu un séisme politique et il ne se passe rien. Là, il s'est passé quelque chose. Donc, il faut assumer aussi après ses choix et les conséquences de ses votes. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est aujourd'hui un sursaut et de dire, qu'est-ce que l'on veut? Qui on veut envoyer nous représenter dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale?
Pour les candidats, il a fallu être très réactif. Une semaine pour tout ce qui était administratif, les préparatifs des professions de foi, les impressions. Et vous avez en gros 2 semaines de campagne, c'est ça, pour battre toute la circonscription.
Oui, c'est sûr que c'est très court. Alors c'est très court parce que je pense parce que la difficulté, c'était quand même les Jeux Olympiques. Parce que les gens ne savent pas, mais il y a un calendrier à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale fermait le 12 juillet. Pour des raisons de sécurité aussi, puisque les Jeux Olympiques démarrent fin juillet, c'est pas possible d'être et dans le Palais Bourbon et faire la cérémonie d'ouverture à l'extérieur. On savait que nous, ça arrêtait le 12, voilà.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, avec ce qui préoccupe les habitants du territoire dans votre programme. J'imagine que vous avez pensé à des propositions prioritaires pour les Français et évidemment ceux de cette troisième circonscription. De mon côté, je souhaite aborder les thèmes de la santé et l'hôpital, le pouvoir d'achat, les retraites qui ont mobilisé des milliers de Français dans les rues, l'emploi et l'agriculture, qui elle aussi, on a pu voir les acteurs qui se sont également fait entendre. Quelles sont vos propositions pour la santé, l'hôpital, avec notamment des urgences en danger? On le voit bien, sur la circonscription, c'est quasiment tous les jours qu'il y a des fermetures, que ce soit au Bailleul, à Château-du-Loir ou à Saint-Calais.
Oui, alors sur la santé, je ne sais pas combien j'ai de temps pour en parler, mais sur la santé, la première des difficultés, c'est le manque de médecins, le manque de soignants. Ce n'est pas le manque de moyens financiers, parce qu'avec le gouvernement, on a toujours voté des budgets en hausse, en très forte hausse. Aujourd'hui, c'est vrai que la majorité du système de soins dans la Sarthe est concentrée sur Le Mans et l'hôpital du Mans. Moi, j'étais en direct avec M. Laurent, donc le directeur de l'hôpital du GHT, pour tout ce qui est ces problématiques de fermeture d'urgence à droite à gauche. Mais si on avait des médecins, les urgences, j'ai reçu déjà... Le collectif, par exemple, pour l'hôpital de Château-du-Loir, si on avait des médecins, très sincèrement, les urgences seraient ouvertes. Il n'y a jamais eu de projet de fermeture des urgences nulle part sur le territoire, que ce soit à Saint-Calais, le Lude, le Grand Lucé. Enfin, il n'y a pas d'urgence au Grand Lucé, mais à Château-du-Loir et même sur Saint-Calais et puis de l'autre côté la Flèche, le Bailleul. Donc la seule problématique, c'est qu'il nous faut des médecins. Donc on fait comment pour avoir plus de médecins? Ben, faut en former. Hein, donc ce qui a été fait, déjà mis en place par le gouvernement, c'est bien déjà de supprimer le numerus clausus, mais on va me dire oui, mais il y a le numerus apertus qui n'a pas été, alors c'est très technique, mais voilà, c'est le nombre après de places qu'il y a dans les facs. La difficulté, c'est la rémunération. Après, je sais aussi des professeurs de médecine dans les facs où il faudrait relever les salaires pour que un médecin préfère enseigner plutôt que d'opérer. C'est une vraie difficulté. Après, de dire on va chercher des médecins à l'étranger pour les ramener en France, on trouve pas que c'est hyper correct, si vous me demandez.
Après, il y en a qui arrivent de même aussi. Hein.
Oui, tout à fait.
Là, sur la communauté par exemple, de Maillet, Chartres, c'est trois étrangers qui arrivent.
Oui, tout à fait. Voilà. Alors, ceux qui arrivent, forcément, on les accueille. Voilà, il n'est pas question de dire on n'en veut pas. Mais vous voyez, quand certains de, je peux le dire, hein, des candidats opposants, enfin mes opposants, là, par exemple, pour les élections législatives, quand vous regardez les votes de leur groupe politique, comment ça s'est passé quand on a parlé de santé dans l'hémicycle, je vais vous le dire, il y a eu un amendement qui a été déposé pour interdire l'installation des médecins dans les endroits où il y en a déjà trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'étais pour. C'est-à-dire qu'on interdit les médecins de s'installer là où il y en a déjà trop. Vous avez des zones en France, si vous allez à La Rochelle, La Baule, Paris, Intramuros et compagnie, il n'y a pas de problème de santé. Vous avez des médecins et vous avez tout le monde. C'est possible d'avoir un dentiste dans l'heure quand vous passez un coup de fil. Voilà, ce qui n'est pas normal. Alors qu'ici, à Château-du-Loir, si j'appelle mon dentiste, j'aurai peut-être un rendez-vous dans, je ne sais pas, 6, 7, 8 mois, quoi. Ce qui n'est pas normal. Et là-dessus, l'égalité de traitement entre tous les Français, moi j'y suis évidemment bien favorable, mais regardez comment ont voté le Rassemblement National, par exemple, pour obliger l'installation des médecins en zone rurale, eh bien ils ont voté contre. Moi, je suis fier d'avoir voté pour, je ne me suis pas fait que des copains dans le milieu médical. La même chose pour donner plus de moyens à nos hôpitaux, c'est aussi d'encadrer le système de rémunération des médecins, ce qu'on a appelé la loi RIST, qui a posé et fait beaucoup de vagues il y a à peu près un an, parce que tout le monde disait on n'aura plus de médecins dans nos urgences. Mais écoutez, je suis désolé, mais on a plafonné à 1 350 euros, donc par tranche de 24 heures, la rémunération des médecins intérimaires. Alors après, ce sont des budgets, et c'est pour ça que un jour, quelqu'un m'a interpellé, c'était sur la place du Lude, pour me dire « mais oui, mais la santé n'a pas de prix ». Ok, la santé n'a pas de prix, mais ça a un coût quand même pour l'ensemble des Français. Moi, je suis convaincu qu'il faut encadrer cette rémunération. Ok, il faut les payer plus cher, parce qu'à 25 euros, la consultation, ce n'était pas assez. Il y a eu des négociations qui avaient été faites aussi sur le programme de santé, puisqu'il avait été même proposé le double, c'est-à-dire 50 euros la consultation. Mais en contrepartie, ils avaient obligation de s'installer là où le ministre de la Santé disait de le faire, comme pour les pharmaciens. Seulement, l'ordre des médecins est contre. Je peux vous citer plein d'exemples sur la santé. On a fait beaucoup de choses. La difficulté, c'est que c'est un tabou. Dans l'opinion publique, les gens pensent qu'il ne se passe rien ou on ne fait rien. La difficulté, c'est que sur les réseaux sociaux, par exemple, dès qu'on fait des rencontres avec les médecins ou les professionnels de santé, bien souvent, il n'y a pas de publication parce que ça reste en sourdine, parce que les gens ne veulent pas qu'on le mette sur la place publique.
Autre sujet qui préoccupe les Français et donc forcément ceux de la troisième circonscription, le pouvoir d'achat. Comment redonner ce pouvoir d'achat à la population du territoire?
Sur le pouvoir d'achat, on a mis en place des choses, parce que quand même, il faut savoir, pareil, que depuis 2022, bon, il y a eu une crise, hein, il y a eu une inflation, une très forte inflation, qu'on a arrivé à régresser là, depuis quelques mois, puisque là, aujourd'hui, on arrive à attirer. Alors, je ne veux pas dire que les prix se remettent à baisser, mais on a au moins contenu la hausse. Ça, c'est une première des choses. Ce qu'on a fait quand même, quand je vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, de dire que le SMIC a augmenté de 4% dans les deux dernières années, c'est complètement faux. Vous regardez depuis 2022 la hausse du SMIC, alors OK, tout le monde n'est pas au SMIC, et je ne dis pas que le SMIC, c'est très bien, mais il a toujours suivi l'inflation, et on est plus proche des 12% que des 4%. Les retraites, c'est pareil, on a augmenté les retraites encore cette année, au 1er janvier 2024, elles avaient augmenté de 4%. Je ne dis pas que c'est bien et que c'est suffisant, mais on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien ou qu'on n'ait rien fait. Ce qui est moins bien dans ce qui a été fait, c'est que même tous les chèques qui ont été mis en place pour aider les gens, les chèques énergie, les chèques sur les carburants, personnellement, je ne veux pas dire que je suis contre, parce que d'aider les gens qui en ont besoin, qui en font la demande, c'est bien. Mais forcément, quelqu'un qui a découvert de 300 euros, vous lui donnez un chèque de 100 euros pour une aide, une prime énergie, il est toujours à découvert de 200 euros. Donc, pour nous, Et nous, ce qu'on défend au groupe Modem, c'est bien la répartition et une meilleure rémunération. C'est-à-dire que quand le SMIC, il augmente, bah oui, mais il faut que les autres dans la grille salariale suivent, pas forcément en pourcentage, mais au moins en valeur. C'est-à-dire que si le SMIC, il augmente de 12 centimes de l'heure, bah, il faut que les autres grilles augmentent au moins de 12 centimes. C'est un exemple. Meilleure répartition de la valeur et des produits, des résultats dans les entreprises. Parce qu'une entreprise qui gagne de l'argent, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Il faut aussi qu'elle puisse le partager avec ses salariés. Donc là, il faut trouver des solutions pour essayer d'améliorer et d'inciter les entreprises, voire même plus que de les encourager. Ça, c'est une chose, ce qu'on appelle la meilleure répartition de la valeur. Et puis indexer, que ce soit les retraites et les salaires, de toute façon, sur l'inflation. Ça nous paraît une obligation.
Qui dit pouvoir d'achat dit emploi. Oui. Est-ce que notre territoire, notre circonscription souffre dans un domaine particulier ou des entreprises à aider pour éviter qu'elles s'en aillent ou qu'elles ferment, vous qui êtes sur le terrain?
Alors, au niveau des entreprises, là, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui recherchent des salariés. Et encore cette semaine, là, vous voyez, avant-hier, j'étais sur la Flèche. Quand vous voyez Mérieux Nutriscience, par exemple, où vous avez quand même des créations. Alors même, on va me dire, oui, mais c'est un transfert, ils arrivent d'ailleurs. OK, mais il y avait 15 emplois, aujourd'hui, ils sont à 60, ils vont passer à 150. Vous avez le cas quand même sur la réindustrialisation. Quand vous en parlez, pareil, Manicare, hein, je suis désolé, il y a Bessé-sur-Bray, Arjowiggins qui a fermé, c'est vrai, il y avait plus de 400 emplois qui ont été supprimés. Mais aujourd'hui, on est à 125, 150 emplois. Toutes les chaînes ne sont pas encore montées, ça veut dire qu'il y a encore un potentiel de création d'emplois. La difficulté, c'est aujourd'hui de trouver du monde. Mais même là, autour de Château-du-Loire, vous avez encore des entreprises qui recherchent du monde.
La Chartres-sur-le-Loire, tout à fait. Voilà, ouais, l'entreprise de produits de luxe. Ouais,
par exemple, il y a plus de 200 emplois. Je suis intervenu à plusieurs reprises pour les volets formation, parce que ce sont des gens qui... Et ce ne sont pas que des salaires au SMIC. Hein. Faut ouvrir les yeux. Moi, je suis d'accord qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, mais ça serait bien aussi de dire les choses qui vont bien. Et vous avez des entreprises qui vont bien, qui recrutent, qui recherchent du monde. Alors je sais, quand on dit ça, quand on met en avant, je ne sais pas, le retour vers l'emploi. Hein. Moi, j'étais favorable justement à des heures conditionnées de RSA, à le retour à l'emploi. Ce n'est pas de faire travailler les gens gratuitement. Mais je suis convaincu qu'on peut aussi s'épanouir par le travail. Moi, je suis désolé, moi j'aimais mon boulot. Je n'étais pas toujours bien payé pour ce que je faisais. Mais une chose est certaine, c'est que j'aimais mon travail. Et je suis désolé, quand vous parlez avec France Travail, que ce soit Château-du-Loire ou La Flèche, avec qui j'étais toujours en lien, que ce soit la directrice de Château-du-Loire et pareil avec La Flèche, le chômage, c'est quand même pas la priorité du territoire. Parce que, OK, il y a du chômage, mais il y a surtout du turnover, mais des gens qui cessent un contrat, qui se mettent au chômage, mais ils sont en attente d'un nouveau contrat. Et en clair, oui, ils sont au chômage, mais c'est des gens qui tournent. Voilà. Oui, vous avez à peu près 3% de ces inscrits qui ont du mal à retrouver un emploi, mais pour X raisons. Il ne faut pas toujours non plus jeter le torse sur tous les chômeurs. Hein. Vous avez aussi des gens qui ont des difficultés, alors soit de mobilité, problème de déplacement, de garderie, garderie d'enfants. Vous avez... des femmes seules, isolées, pour qui, avec des enfants, c'est très compliqué de retrouver un emploi. Donc, c'est après aussi aux collectivités, c'est ce qu'on a toujours fait, d'essayer de voir comment on pouvait accompagner, associer les parents pour les reformer et trouver une solution pour qu'ils les remettent vers l'emploi.
Les retraites, voilà, la réforme n'a pas fait l'unanimité en France, c'est moins qu'on puisse dire.
Tout à fait.
Votée par un 49-3, car compliqué de s'entendre au sein de l'Assemblée, les gens dans la rue. Vous êtes positionné comment?
Alors, nous, on avait une position très proche d'un syndicat, et même encore aujourd'hui, hein, parce qu'on sait très bien que cette réforme des retraites qui a été passée l'année dernière n'est pas la solution. Ça, on l'a toujours défendu, nous, pour vous dire, au groupe Modem démocrate, la retraite à point, et on la défend toujours. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc cette réforme des retraites, pour nous, celle qui était en début de mandat, pour nous, était nettement meilleure. D'accord ? Par contre, tous ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de problème avec les retraites, c'est complètement faux. De toute façon, regardez aujourd'hui le Rassemblement national qui disait que dès qu'ils allaient au pouvoir, ils allaient revoir le système des retraites. Et là, aujourd'hui, vous entendez Bardella qui ne prononce plus du tout sur les retraites. Ah bah oui, mais non, bah oui, 64, 62, 60, machin. Enfin, en clair, ils ne pourront rien faire. De toute façon, il faut savoir que pourquoi cette réforme, elle a été faite. Contrairement, et regardez, pareil, parce que bien souvent, on nous disait, oui, mais le Conseil d'orientation des retraites, il nous dit, il n'y a pas de problème avec le financement des retraites, ce qui est complètement faux. Vous savez très bien que je suis proche de François Bayrou, qui est haut commissaire au plan et sur les retraites. Pour vous dire, on emprunte chaque année 3 000 millions d'euros pour payer nos retraités en France. Un jour, il va falloir rembourser ces 3 000 millions d'euros que l'on emprunte tous les ans. Qui va rembourser? Est-ce que ça doit être nos enfants, nos petits-enfants qui doivent payer nos retraites actuelles? Moi, je pose la question. Il faut donc qu'il y ait une réforme. Cette réforme qui a été mise en place, elle ne va pas régler le problème. Aujourd'hui, de toute façon, le Conseil d'orientation des retraites qui disait qu'il n'y avait pas de problème. Bon, déjà, le président, il a été éjecté, celui qui était présent à l'époque de la négociation sur la réforme des retraites. Et puis là, pour 2025, on sait déjà que la réforme, il y a un problème déjà à partir de 2025. Je vous rassure, j'ai pas envie qu'on retraite du sujet des retraites. En plus, le RN qui fait des belles propositions pour les retraites, eh ben, qui nous disent comment ils vont faire pour financer comme ils veulent faire. Ça va me faire rire. Enfin, c'est pas marrant parce qu'à un moment, un jour, il faudra payer. N'oubliez jamais. Et il n'est pas question de vivre ce qu'on a vécu avec la Grèce en France. Ou alors après qu'ils aillent le dire que... Parce que nous, on est pour 85% de ce que vous touchiez sur vos retraites, enfin que vous savez, au niveau des retraites par rapport à votre salaire. Mais dans ce cas-là, parce qu'on peut mettre la retraite à 60 ans hein, si on veut, et puis on met à 50% de ce que vous touchiez à votre retraite. Nous, on est convaincus au MEDEM qu'il faut ce qu'on appelle, et ce qui marche très bien, il y a déjà la retraite à points chez les agriculteurs. Vous savez, quand vous faites une très mauvaise année, vous gagnez 15 points. Quand vous faites une bonne année, vous avez 35 points. D'accord ? Quand vous arrivez en fin de carrière, eh bien, vous avez un nombre de points, la valeur du point, qui fait que vous avez votre retraite. Vous travaillez, vous avez des points. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de points. Alors après, ça ne veut pas dire que les gens qui ne travaillent pas, il faut penser aux personnes en situation de handicap. Vous avez quand même des cas particuliers qui vont faire qu'il ne faut jamais laisser personne sur le bord du chemin. Enfin, au MEDEM, on est quand même humaniste hein, par priorité, mais il faut aussi valoriser le travail. Et moi, je suis convaincu que si on arrivait à défendre cette retraite à points, ce serait bien. Bon, bah écoutez, à suivre.
Autre sujet qui a fait l'actualité, l'agriculture. Voilà, des agriculteurs qui se sont fait entendre. Vous avez entendu, vous les avez rencontrés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leurs conditions de travail, de rémunération, les importations? Voilà, vous vous positionnez comment?
Vous savez aussi que je suis très proche de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Alors, si vous me demandez si j'ai rencontré les agriculteurs, oui et non. Parce que même j'avais appelé les représentants syndicaux de la Sarthe, en leur posant une question très sincèrement, de leur dire, à votre avis, où est-ce que je suis le plus utile? Est-ce que c'est sur un rond-point pour faire une photo avec vous? Ou c'est d'être présent dans l'hémicycle et au ministère de l'Agriculture pour taper à la bonne porte pour faire avancer les dossiers? Tous m'ont répondu la même chose, vaut mieux que tu sois là-haut pour faire avancer le truc plutôt que de faire des photos. Donc ça a déjà été très clair. Et si vous me demandez, c'est vrai qu'à l'époque, c'était le président de la commission des affaires économiques qui m'avait demandé, c'était au mois de septembre 2023, et vous voyez dans l'agenda, bien avant la crise agricole de janvier-février, on m'avait demandé un rapport que j'ai donc publié et qui a été enregistré sur le mal-être agricole et les contrôles en agriculture. Malheureusement, parce que c'est une des professions où il y a le plus de suicides. Moi-même, j'étais président d'un groupement de producteurs de pommes et sur les 12 adhérents, 2 ont mis fin à leur jour, donc de mes collègues. Inutile de vous dire que c'est des moments dans la vie qui vous marquent. Et lorsque vous êtes élu député, vous avez aussi envie de porter cette parole là-haut à l'Assemblée nationale. Et j'étais heureux, vous voyez, quand le Premier ministre Gabriel Attal a fait une annonce au mois de janvier, il avait dit, voilà, entre autres, une des raisons du mal-être agricole, c'était les questions de dénonciation de voisins qui vont porter plainte. Enfin, parce que, par exemple, en plein mois de janvier, vous avez une vache dans un champ sous la pluie. Et donc, forcément, s'il y a une plainte, il va y avoir une enquête et vous pouvez avoir les agents de l'OFB, par exemple, qui vont venir contrôler l'agriculteur. Et moi, dans les 19 recommandations que j'avais formulées, eh bien, l'une d'entre elles, c'était de placer l'OFB, l'Office français de la biodiversité, sous l'autorité des préfets. Et quand j'ai entendu Gabriel Attal au mois de janvier dire qu'il est placé sous l'autorité du préfet, alors qu'avant, ils étaient libres, dépendants uniquement du ministère de la Transition écologique, eh bien, quelque part, vous dites que votre travail a servi à quelque chose. Ensuite, j'avais demandé à être reçu à Matignon, parce que j'avais déjà présenté mon rapport au ministère de la Transition écologique, à Christophe Béchu, et au ministère de l'Agriculture, à Marc Fesneau, et les deux ont travaillé sur nos recommandations. L'inconvénient de cette dissolution, si vous me demandez, c'est que tous les travaux qui étaient en cours sur la rémunération des agriculteurs avec Anne-Laure Babot et Alexis Izard sur la loi Egalim 4 pour redonner du revenu aux agriculteurs, et bien tous ces travaux-là sont arrêtés, mis à la poubelle. Et si on n'est pas réélu, en clair, il ne va rien se passer. Voilà.
concernant votre campagne, on peut vous suivre de quelle manière? Les marchés, évidemment, la rencontre humaine avant tout, les réseaux, des réunions. Voilà, vous étiez à Maillet il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
Vous allez à la rencontre de la population. Vous avez voilà, le Facebook. C'est vos différents modes de communication, d'aller à la rencontre de la population. C'est important.
Alors, c'est... Comment vous dire, je vois pas la différence avec ce que je faisais avant la dissolution, si vous me demandez. Si ce n'est que forcément j'ai annulé des rendez-vous parce que je ne suis plus député officiellement. Donc à la rencontre des concitoyens, oui, on est obligé de le faire parce que si on nous voyait pas sur les marchés ou ailleurs, bah on dirait bah oui, mais tous les autres candidats sont là et lui, le député sortant, il croit qu'il est sur un fauteuil et qu'il va pas.
Qu'il a pas besoin de ça.
Alors que non. Je le fais, mais en clair, j'ai pas l'impression que ça change et que ça bouscule mon emploi du temps d'auparavant. La seule différence, c'est que là, aujourd'hui, du lundi au jeudi, je dors chez moi. Voilà, alors qu'habituellement, je dormais sur Paris parce que ça se passait à Paris du lundi au jeudi. Mais sinon, le vendredi, samedi, dimanche, j'avais au moins 3-4 lieux de visite chaque jour, tous les jours. Donc là, je continue comme avant. Alors forcément, bah oui, mais c'est quand même une campagne express. C'est quand même un peu particulier quand même. Alors faire des réunions, faire des rencontres. Moi... Je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, j'aime bien cette idée de faire de la politique autrement. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai fait, j'en suis fier, c'est ce que j'appelle des cafés débats. C'est-à-dire que vous allez dans un café, vous vous placez quelque part, et puis on va parler, je suis là.
Vous l'annoncez déjà sur les réseaux pour
ouais,
que
je
les
l'annonce sur les réseaux. Alors j'en ai fait 4 pour les européennes, j'en ai fait avant sur l'alimentation, par exemple, des sujets de savoir quel prix pour notre alimentation, par exemple. On en a fait sur l'Europe, c'est quoi l'Europe, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe, ça on en avait fait 4. Et j'en suis très fier parce que vous voyez, le dernier qu'on a fait sur l'Europe, c'était à Sainte-Sérotte, un village de 312 habitants du côté de Saint-Calais. On s'est fait remarquer au national, parce qu'on est quand même regardé, ausculté. Si vous regardez nos réseaux sociaux, je vous rassure, les grands chefs là-haut regardent et ils nous ont dit non, c'est vraiment bien ce que vous faites, alors on va pas le faire à Sainte-Sérotte, on va le faire au Mans. Et là moi j'ai dit non, on va le faire à Sainte-Sérotte, c'était prévu Sainte-Sérotte. Oui mais non, on va vous le faire au Mans parce qu'on va vous envoyer des ministres et tout. Et ben, j'ai dit c'est pas grave, les ministres ils vont faire le Mans et puis moi je vais faire Sainte-Sérotte. Et à la fin, bah, les ministres sont venus à Sainte-Sérotte. Je suis têtu, je l'ai toujours été, je sais ce que je veux, ce que je veux pas. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais on a passé une très bonne soirée. Les habitants étaient scotchés. Et là, je continue de faire pareil pour la campagne parce que je suis convaincu qu'il faut être au plus proche des gens. On n'est pas parfait. Moi, j'entends que des gens puissent penser différemment de moi. Il n'y a aucun problème. Hein. Vous voyez, sur les retraites, tout à l'heure, quand vous avez parlé, moi, je travaillais avec André Chassaigne sur les retraites agricoles, par exemple. Savez-vous que les retraités agricoles, quand on calcule votre retraite, qui est forcément basse, quand vous êtes agriculteur, moi j'ai commencé à travailler à 18 ans, eh bien, on va prendre ma carrière de 18 à 64 ou 65 ans, parce qu'il ne faut pas en rêver, enfin, je ne sais pas ce qui se passera dans l'avenir, mais le temps de vieillir. Et puis on fera la moyenne, on va tout mouliner toutes les années de travail. Alors que vous, salariés autres ou enfin, travaillant dans la partie privée, on va prendre vos 25 meilleures années. Inutile de vous dire que moi j'ai des années où j'ai grêlé, où j'ai gelé, où j'ai pas eu de récolte. Donc, pas de revenus. Et donc, ces années-là, forcément, eh ben, ça va me pénaliser ma retraite. Donc, je suis favorable à ce que tout le monde soit traité de la même façon et donc qu'on prenne les 25 meilleures années. Et ça, là-dessus, je travaillais avec André Chassaigne, qui est pourtant un député communiste.
Quel sera votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous voulez dire aux habitants de la circonscription, déjà pour ceux qui veulent voter pour vous et ceux qui ne le souhaitent pas ou qui ne savent pas encore pour qui mettre leur bulletin?
Quoi leur dire, moi, je suis d'accord avec Eric, hein, c'est pas en démentant les autres qu'on se grandit soi-même. Je crois que chacun va mesurer un peu l'importance du vote, du prochain vote. On ne démonte pas les autres, mais attention quand même aux extrêmes. Moi, quand je suis parti avec Eric, hein, je lui ai fait tout de suite confiance. Hein, on ne se connaissait pas beaucoup, on se fréquentait dans quelques réunions, mais voilà, j'ai appris à le connaître. Quand il a promis qu'il serait sur le terrain, il est resté sur le terrain. Il est parti en campagne comme un simple agriculteur. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il est comme nous. Hein. Il vient d'une petite commune, il était maire d'une petite commune. Il connaît tous les problèmes des habitants du territoire. Et je le dis encore, il a prouvé qu'il était présent. C'est quelqu'un d'abordable et il le disait lui-même, il essaie d'être présent sur tout le territoire. Donc votez Martineau.
Merci Pascal, mais... Si vous me demandez, j'ai qu'un seul regret sur ces 2 années, je l'ai mis dans mon premier post sur les réseaux, c'est que dans une journée, il y a seulement 24 heures. Je sais qu'on a aidé beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de remerciements, ça me fait plaisir, c'est très bien pour mes collaborateurs. Oui, j'ai envie de continuer à être Bah oui, un acteur du territoire. Je sais que j'ai. Mais par humilité, peut-être que j'ai tort, mais je n'ai pas envie de dire ce que j'ai complètement fait. Je préfère que ce soit les gens qui en parlent, de disent, bah oui, voilà. Moi, j'avais ma permanence à Château-du-Loir. Elle était ouverte du lundi au vendredi. Même si j'étais pas là, il y avait du monde pour vous recevoir. On a réglé beaucoup de dossiers. On n'a pas toujours été parfait, ça j'en conviens, mais la perfection, voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir, oui, du populisme, une certaine hypocrisie qui vont vous promettre des lendemains qui chantent, mais on va déchanter. Vous voyez, le lendemain des européennes, moi, j'ai déjà des syndicats qui m'ont appelé en me disant, mais Eric, on a plus de... Enfin, c'était les syndicats agricoles, pardon, nationaux, et où on m'a dit, mais Eric, Jérémy De Serle, qui s'occupait de l'agriculture à l'Europe, il a été battu, qui s'occupe maintenant des agriculteurs à Bruxelles? Bah, j'ai écouté, vous verrez avec les députés RN qui ont été élus. On les connaît pas, on sait pas qui c'est. Et puis, voilà, quoi. Moi, je dis pas que j'étais parfait. Je regrette rien. Si c'était que, voilà, on n'avait pas assez de temps pour arriver, il y a des fois, à tout faire. Mais on avait de l'empathie pour les gens. On l'a fait avec cœur. Et tout ce que j'ai défendu à l'Assemblée nationale, le 30 juin, votez utile, votez Martineau. Et je vous remercie et je serai toujours, c'est sûr, à vos côtés, avec vous.
Merci Eric Martineau et Pascal Dupuis, candidats sur la 3e circonscription pour Ensemble pour la République investie par le MoDem. Les élections législatives vous donnent rendez-vous aux urnes les dimanches 30 juin et 7 juillet.